Écho d'économie.
Près de 600 sociétés détiennent de titres miniers dont le paiement n'est pas retracé par le service financier du cadastre minier. Elles ont jusqu'à 45 jours pour régulariser la situation ou apporter une preuve de paiement au risque de perdre leur titre. En Nord-Kivu, toutes les voies d'approvisionnement et d'écoulement des produits sont bloquées par la rébellion. Dans une lettre ouverte, la société civile provinciale demande au président de la République de prendre des mesures pour diminuer les charges fiscales de cette province pendant cette période de guerre. Bienvenue à tous. 597, c'est le nombre de sociétés détentrices des titres miniers dont le paiement n'est pas retracé par le service financier du cadastre minier CAMI. La liste a été publiée ce vendredi à travers un communiqué du cadastre minier dont une copie est parvenue à Radio Capi. Ces sociétés ont jusqu'à 45 jours pour régulariser la situation ou apporter une preuve de paiement au risque de perdre leur titre minier. Cynthia Bachizi Nabizana nous en parle.
Beaucoup de titulaires des droits miniers concernés détiennent des permis de recherche au PR, y compris des sociétés publiques. Il y a également un nombre non négligeable de ceux qui doivent s'acquitter des autorisations d'exploitation de carrière permanente AECP. La liste exhaustive est à retrouver sur le site web du cadastre minier, précise cet établissement public. La perception des droits superficiels est l'une des obligations du maintien de validité d'un droit minier ou de carrière conformément aux prescrits du code minier. Passé le délai général généralement de 45 jours, le titulaire non en règle de paiement peut être déchu de son permis de recherche, permis d'exploitation dérégé, permis d'exploitation de la petite mine ou droit des carrières et autres autorisations. Pour rappel, c'est depuis le mois de février de l'année en cours que la DGRAD et le CAMI ont lancé la campagne de perception relative aux droits superficiels pour l'exercice 2024. Il s'agit du paiement annuel par carré pour les détenteurs des titres minier. Le cadastre minier annonçait ainsi dans la foulée que les notes de débit étaient déjà disponibles à son guichet pour retrait.
L'équipe du FMI en mission en RDC du 25 au 8 mai et les autorités congolaises sont parvenues à un accord au niveau des services sur la sixième et la dernière revue du programme économique soutenu par la facilité élargie de crédit. La performance du programme a été globalement positive. La plupart des objectifs quantitatifs ayant été atteints et les principales réformes ayant été mises en œuvre, bien qu'à un rythme ralenti, note la mission. Avec la fin du programme en cours, le FMI recommande à la RDC des politiques économiques prudentes, notamment une bonne coordination des politiques budgétaires et monétaires soutenue par une amélioration de la gouvernance. Les autorités ont exprimé leur intérêt pour un nouvel accord et pour l'accès à la facilité de résilience et de durabilité. Si le conseil d'administration du FMI approuve cette revue et des consultations au titre de l'article 4 prévu pour le début du mois de juillet 2024, l'achèvement de la revue permettra un décaissement de 152,3 millions de DTS, soit un peu plus de 200 millions de dollars américains pour renforcer les réserves internationales de la RDC au niveau de la Banque centrale du Congo. Signature ce vendredi à Kinshasa d'un protocole d'accord entre la Direction générale des douanes et accises et le gouvernement provincial du Nord-Kivu sur la perception des taxes provinciales au niveau du cordon douanier. Cette collaboration favorise l'assainissement de postes douaniers et par ricochet l'amélioration du climat des affaires. Écoutez à ces sujets David Koumoua, conseiller principal du gouverneur du Nord-Kivu en charge des finances.
Nous venons de sceller nos relations avec la DGDA à travers un protocole d'accord de collaboration qui va nous permettre de percevoir nos recettes à l'importation et à l'exportation des marchandises par le canal de la DGDA. Et comme je l'ai dit dans le mot de circonstance, ce protocole d'accord rentre dans la matérialisation de la vision du chef de l'État qui consiste non seulement à la rationalisation de la fiscalité, mais également à l'amélioration du climat des affaires. Là où nous avions affaire à 5-6 services, désormais uniquement la DGDA va percevoir pour le compte du gouvernement provincial cet acte générateur, principalement la taxe conventionnelle pour la reconstruction, la taxe de mise sur le marché des matières non biodégradables, la taxe sur le produit diététique, la feuille de route sur les véhicules importés. Donc au total, cet axe générateur était perçu par plusieurs services va désormais être encadré par la DGDA. C'est donc l'amélioration vraiment du climat des affaires, mais également la rationalisation de la fiscalité. Et je l'ai dit, c'est conformément à la recommandation du Forum national sur la réforme de la fiscalité dans notre pays, qui veut que nous puissions évoluer vers la matérialisation du guichet unique à tous les niveaux.
Pendant ce temps, la population du Nord Kivu continue à subir des pleins fouets des conséquences économiques dues à la guerre d'agression du M23. Toutes les voies d'approvisionnement et d'écoulement des produits sont totalement bloquées par la rébellion, une situation qui préoccupe les acteurs locaux. Dans une lettre ouverte adressée au président de la République, la société civile provinciale demande au président de prendre des mesures pour diminuer les charges fiscales au Nord Kivu pendant cette période de guerre. Sifa Maguru.
Pour le président de la société civile du Nord Kivu, la pression ne fait que s'accentuer et certains opérateurs économiques se retrouvent obligés de fermer les portes de leurs activités. John Banyene.
Aujourd'hui, Goma est considéré comme une prison ciel ouvert. Les gens qui quittaient par exemple Nyanzale, Tepinga, Masisi pour venir acheter des produits à Goma, ils ne viennent pas comme il faut. Et s'ils y vont, ils sont taxés par les rebelles. Pour un camion, on paye de 300 dollars à 1000 dollars pour un camion, pour l'aller et pour les retours. Aujourd'hui, pour aller par exemple dans le Grand Nord, il faut passer par le Rwanda et l'Ouganda. On fait payer la population, le Tenali, 45 dollars.
Même son des cloches pour le président de l'association des pétroliers du Nord Kivu à Penoki. Providence Muhiga évoque le problème des surtaxations et la multiplicité des contrôles alors que toutes les voies d'écoulement de leurs produits sont bloquées et leurs activités ne marchent plus.
Vous allez voir, pour la même taxe, vous avez plusieurs services qui viennent. Vous allez vous retrouver, il y a l'OCC qui vient contrôler les pompes, vous avez l'industrie qui arrive, la division de l'environnement, la CE, tous au nom de l'environnement. Vous ne savez plus où mettre la tête. Effectivement, la surtaxation, elle est réelle. Et quand ils viennent, ils ne tiennent pas compte des circonstances dans lesquelles nous sommes en train d'évoluer.
Providence Muhiga explique par exemple le problème de la hausse du prix du carburant observée à Goma depuis quelques jours.
La dernière structure, je disais qu'elle date de 2023. Le taux de change à l'époque était de 2200. Aujourd'hui, nous sommes, pour avoir un dollar, il faut un minimum de 2800. Là aussi, c'est tout un problème. Aujourd'hui, le marché est réduit qu'à la ville de Goma. Vous ne pouvez pas arriver à Sac, vous ne pouvez pas dépasser Macao. Donc, c'est difficile quand vous vous imaginez qu'un camion qui quittait ici pour Kisangani, il vous prenait facilement 2500 litres, ou le Fousseau qui partait à Bunagana, Rutshuru, Masisi, il vous prenait autour de 500 litres. Et quand vous vous dites que tous ces marchés-là, vous ne le contrôlez plus, c'est vraiment inquiétant.
En fin de compte, c'est la population qui paye les prix de cette dégradation du climat économique causée par la guerre du M23. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Et puis la population de la cité de Minova dans le territoire de Calais éprouve actuellement d'énormes difficultés pour épargner et pour cause, pas de banque opérationnelle dans cette cité d'environ 307 000 habitants. La caisse d'épargne du Congo Kadeko, la seule qui était installée, a cessé de fonctionner normalement depuis environ 3 mois maintenant à cause de l'insécurité. Et du coup, les habitants qui étaient déjà habitués à la culture d'épargne ne savent plus à quel sens se vouer. Certains, pour mettre leur argent à l'abri, recours aux changeurs de monnaie. C'est comme en témoigne ici cet habitant joint depuis Minova par Denise Lukesso.
Il n'y a pas de banque, mais il y avait la Kadeko, la caisse sociale de l'État, qui ne fonctionne plus depuis les 3 mois passés. Et les gens, maintenant, pour conserver leur argent, ils vont chez les changeurs soit, et les changeurs aussi peureux ne sont plus dans la zone parce qu'ils se disent, plus si nous faisons l'activité de l'argent, plus si nous nous exposons dans le ménage. Alors, certains changeurs sont là, d'autres ne sont plus là. Ceux qui vendent des produits ou les troquent sur le marché, les bananes et tout, ils sont dans l'obligation soit de chercher un argent pour un dollar pour déposer. Il n'y a plus de Kadeko pour les bonnes épargnes. Et c'est ça le problème.
En Ituri, le marché communautaire de Dramani à Lita, dans les territoires de Djougou, a été inauguré mardi, à la suite de la calmie observée dans cette cité située à environ 30 km au nord de Bounia. Les activités économiques et la circulation de personnes étaient suspendues depuis 3 mois suite au meurtre de 15 civils par le groupe armé Ekodeko. Selon les autorités coutumières, des milliers de paysans et des commerçants venus de plusieurs localités ont afflué avec des vivres et des produits de première nécessité.
Plusieurs localités dans les secteurs de Walendo Tatsi et Baïma Nord étaient enclavées depuis le meurtre des civils avec comme conséquence la fermeture de ces marchés communautaires. De nombreux paysans avaient de la peine à vendre leurs produits champêtres. D'autres habitants éprouvaient des difficultés pour s'approvisionner en produits de première nécessité. Les différentes parties ont exprimé leur satisfaction pour la reprise d'activité en vue d'améliorer les conditions de vie de la population. Le chef de Walendo Tatsi, Joël Mandé.
C'est à l'attente vraiment de la population puisque vraiment Il y avait de l'autre côté les darés, on n'achetait pas. De l'autre côté, il y avait l'argent. Mais maintenant, on a réduit tous les deux. Les plans économiques, les choses vont aller en avance.
L'ouverture de ces marchés offre également une opportunité aux taximens de gagner de l'argent. Ils transportent des personnes et des marchandises en provenance des différentes localités à la périphérie de la ville de Bounia et dans les territoires de Djougou.
Voilà, le marché a repris. Vous avez vu, il y a beaucoup de darés. Et ça a donné des travaux aux taximens. Plein de taximens, de part ou d'autre, quittent Katoto. Il y a même des mamans de Kolomani de la ville de Bounia sont présents ici. Voilà un grand marché qui a réuni vraiment tout le monde.
Ceux qui fréquentent ces marchés demandent au gouvernement provincial de réhabiliter les tronçons Katoto-Parnganza pour faciliter les transactions commerciales dans la zone. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Écho d'économie.
Écho d'économie reçoit le représentant résident du PNUD RDC, le programme des Nations Unies pour le développement, qui supervise l'exécution des travaux du programme de développement à la base des 145 territoires dans 9 provinces, a reçu mardi de Safrikas 6 ouvrages réalisés dans la province du Maniema sur les 103 attendus. L'invité de l'économie Damien Mama donne ses appréciations dans cet entretien accordé à Florence Kizalunga.
Monsieur Damien Maman, bonjour.
Bonjour madame.
Après une année de travaux, Safrikas revient de vous remettre quelques ouvrages réalisés dans le cadre du PDL 145 territoires. Comment appréciez-vous ces travaux?
Effectivement, ça a pris à peu près une année pour avancer dans les travaux et je suis très heureux de voir que nous avons à peu près 5 infrastructures qui sont déjà prêtes sur les 103 pour la province du Maniema. Et nous avons symboliquement remis l'école primaire Lomamba dans le territoire de Kailo au gouverneur et nous allons poursuivre la remise du reste des infrastructures dans cette semaine. Mais en plus des 5 infrastructures, il y a une bonne partie qui a progressé. Vous avez vous-même constaté lorsqu'on s'est arrêté à Kampala, toujours dans le territoire de Kailo. Il y a un hôpital qui est prêt, mais parce que c'est pas encore équipé, on ne remet pas. Et nous avons beaucoup de travaux qui ont avancé dans l'ordre de 90%, 80% par là. Et nous allons continuer à remettre chaque mois, une fois que ces infrastructures sont progressivement prêtes. Les travaux que j'ai vus hier sont de très bonne qualité et ça reflète un peu les normes que nous avons dictées dès le départ. Et les entreprises sont donc appelées à se conformer à ces normes au cahier de charge, de sorte que les infrastructures qui sortent de terre dans le cadre du PDL 145 territoire dans le Maniema puissent respecter les normes qui ont été instituées par le gouvernement, mais qui respectent aussi les standards internationaux.
Vous venez de nous dire qu'il y a d'autres ouvrages à livrer. Est-ce que c'est encore dans les délais?
Bon, en fait, tout le programme dans son ensemble n'est pas dans les délais. Vous savez, on fixe un délai. Et puis, face aux défis logistiques, climatiques, sécuritaires, un peu partout, on est obligé d'ajuster. Mais quand on regarde le niveau des défis par rapport au travail qui est maintenant fait, je peux bien sûr nous féliciter d'être dans des délais raisonnables. Pas les délais initiaux, mais des délais raisonnables, parce qu'il faut bien sûr s'assurer que le cahier de charge est respecté. Et vous savez, ici, on est confronté dans le Maniema à une pénurie de matériaux de construction. Ça prend du temps pour être acheminé de localités environnantes comme le Nord Kivu, la Tchopo. Donc, dans ces conditions, ça prend plusieurs semaines, voire voire plusieurs mois pour acheminer du matériel et cela joue aussi sur les délais. Mais je peux vous rassurer que une fois qu'on a commencé, on est en train de progresser. Nous faisons la pression sur les entreprises pour accélérer et c'est ce que les autorités provinciales nous ont demandé et c'est ce que nous voulons d'ailleurs. Donc on va accélérer et s'assurer que nous fassions le reste des travaux dans des délais raisonnables.
Sur une centaine d'ouvrages à remettre, seulement 5 ou 6 qu'on vient de vous remettre, vous êtes satisfait de ça?
Mais bien sûr, parce que nous ne remettons pas les infrastructures tant qu'elles ne sont pas totalement finies et équipées. Je vous ai dit, on a une vingtaine qui sont à des niveaux de réalisation qui peuvent même permettre aux enfants de les occuper. Mais les standards du PNUD sont tels que nous ne pouvons pas remettre une infrastructure qui n'a pas les classes finies, les plafonds terminés, les toilettes finies, les conteneurs d'eau complètement finalisés, les sanitaires posés. Donc on veut s'assurer quand même que tout est là. Et c'est parce que on veut s'assurer que tout est là que nous sommes obligés parfois de retarder un tout petit peu la remise, mais en termes de progression, les travaux progressent.
PNUD, dans le cadre d'exécution de ce projet, vous financez ces travaux dans presque 9 provinces. Quelle est la situation dans les autres provinces?
Bon, le PNUD est concerné par 9 provinces et 54 territoires. Et les travaux avancent globalement bien dans l'ensemble. Sur l'ensemble, on a à peu près une cinquantaine d'infrastructures qu'on remet ce mois. Et ça va se poursuivre ainsi dans les mois à venir. Vous savez, nous avons atteint la vitesse de croisière. Et avec la vitesse de croisière, chaque mois, nous allons remettre de l'eau importante d'infrastructures au gouvernement. Et nous sommes confiants que nous allons atteindre les objectifs qui ont été fixés selon l'accord que nous avons conclu avec le gouvernement de la RDC.
Il y a dans certains sites où il y a un peu de soulèvement avec les agents demandant un peu des frais acquis de part et d'autre, soit Safrica, soit PNUD, qui ne les paye pas. Et souvent, on abandonne, on arrête les travaux. Est-ce que, comme vous êtes venu là, vous avez résolu ces problèmes?
Bon, vous savez, le PNUD a toujours payé ses prestataires. Mais le décaissement de cet argent suit des modalités qui sont arrimées au niveau des progrès des travaux. Et donc, on ne peut pas payer une entreprise 100% de ce qu'on lui doit si elle fait seulement 20% du travail. Nous devons aussi sécuriser l'argent public. Et donc, lorsque les entreprises arrivent à 20% et qu'on doit leur payer 40%, on doit vérifier d'abord que ce qui a été réalisé est effectif. Donc, tous ces processus font croire à certains que, bon, il y a des retards dans les paiements, mais il n'y a pas de retard. En fait, c'est que nous nous assurons que les entreprises respectent les engagements.
Messieurs et dames, maman, merci.
Merci, madame.
Fin de Écho d'économie de ce soir. À la prise de son, c'était Debs Vita, Hervé Vauca et Billy Landry-Bétou étaient à la mise en onde. Merci de nous avoir suivis et surtout bon week-end chez vous.